Salut Jonathan.
Salut Emmanuel.
Eh bien, on est déjà jeudi soir. Hein.
On est déjà jeudi soir à Salt Lake City.
À Salt Lake City. Et parmi les choses quand même qui étaient très importantes aujourd'hui, c'est qu'on est sorti, on a survécu à Okata in the Hat, au
catamaran. C'est ça, voilà. On a fait ça. Et
je pense que ça a été un vaste succès. Nous, on s'en est pas forcément rendu compte sur le moment, mais
moi, je m'en rends jamais compte.
Mais non, c'est vrai. Mais enfin, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais il y a plusieurs personnes quand même qui nous ont dit c'était super cool ce qu'on avait fait. Il paraît qu'il y a eu des tweets en folie. Alors moi, j'ai encore rien vu. Mais...
Ouais, moi non plus. Bon, parce qu'en fait, il y a quand même en même temps un million d'autres tweets qui passent avec le tag Agile 2011. Mm-hmm. Le truc auquel j'avais pensé avant, mais qu'après ça m'est sorti de l'esprit, c'est que ce qui se fait maintenant au 21e siècle, c'est quand tu commences ta présentation sur ta première slide, tu mets le hashtag que tu veux que les gens utilisent.
Comme voilà. Ça, après, tu peux retrouver plus facilement.
C'est ça.
Diable.
Donc, il paraît qu'il y a eu des tweets. Moi, j'en ai vu un quand même, quelqu'un qui a relevé que... à un moment, on a dit un truc qui était que... Une anti-pattern fréquente de pair programming, c'était de laisser ton binôme aller faire la ballerine.
Voilà, pendant 2 minutes.
Pendant 2 minutes. Donc ça, on a bien recommandé aux gens d'éviter.
De le faire.
D'éviter de le faire. Voilà. Mmh. Parce que nous...
On l'a fait, et la démonstration était éloquente que quand je tourne comme une ballerine pendant 2 minutes...
Tu reviens et...
Et je reviens et le code, c'est n'importe quoi. Non, c'était pas n'importe quoi.
Il y a aucun problème dans le code, juste largué.
J'étais largué, mais aussi, il faut dire que tu avais écrit les fichiers, le code source dans un fichier de spec. Enfin bon.
C'est pas faux.
Mais bon, donc, non, ça s'est bien passé. Moi, je suis content. En plus, il y avait quand même du monde.
Soulagé. Quand même. Moi, je suis soulagé.
Content et soulagé. Mais il y avait un peu quand même ce contrat qui était les gars disent ouais, ok, vous avez l'air de savoir ce que vous faites, vous dites que c'est génial, on veut bien vous accueillir, ouais. Même si on ne sait pas trop qui vous êtes.
C'est vrai. C'est vrai qu'on a eu un écho notamment de Dean Wampler, qui était le chef de la.
De la bande.
De la. Qui était le, comme ils disent, le stage producer, celui qui organisait la track dans laquelle on était, qui avait sélectionné les talks, tout ça, qui nous a fait un retour positif, et qui a bien aimé ce qu'on faisait, donc ça, c'était plutôt cool. Si on est encore sur le sujet du Catalina, on peut rembobiner un petit peu sur ce qu'on a fait un petit peu plus tôt pour faire un peu de buzz.
C'est rigolo, ouais. Bah...
Hier soir, donc...
Ah oui, toi, tu as dîné avec Ward, c'est ça ?
Non, je parlais... Oui, ça, on va raconter après, mais je parlais de ce qu'on a fait autour du Kata in the Hat, déjà. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais hier soir, nous avons organisé une dégustation de pâté.
Ah oui, on a fait une dégustation de pâté, tout à fait, Et effectivement, finalement, il y a du monde qui est venu. Enfin, c'était fun parce qu'on a décidé ça quoi vers 4 heures l'après-midi.
En fait, moi j'ai décidé ça en me levant vers midi.
Midi heure française ou midi
Non, enfin, en me levant, je sais plus, j'étais dans un brouillard.
T'étais dans le pâté justement.
Voilà, j'étais dans le pâté et j'arrive vers midi, enfin c'était l'heure du repas. J'ai ces boîtes de pâté là dans mon sac. Enfin, il faut faire un truc quand même. Enfin, c'est con. Mais j'avais pas trouvé jusque-là le moment. Puis il y avait la question du pain. Puis alors, c'est l'heure du repas. Et alors, un coup de bol, je passe devant une table où les gens, le personnel de l'hôtel, avaient laissé des sacs de pain, du pain sous plastique qu'ils n'avaient pas encore déballé. Mon plan initial, c'était d'aller dans une banette, enfin, dans un panier à pain et de piquer une dizaine de tranches, de stocker je sais pas comment. Et en fait, voilà, j'ai piqué un pain
de miche
entier. Pré-tranché, tout ça. Bon. Donc ça, c'était pratique. Ça nous a permis donc de faire cette dégustation, donc pâté d'expliquer à tous les gens qui venaient
la différence entre rillettes et pâté.
Confit de foie de porc, confit de foie de volaille au porto et rillettes de porc. Voilà. Alors rillettes, moi je connaissais pas la traduction. Donc ce que je dis à tout le monde, c'est que c'était des bouts de cochon
avec du gras.
Ouais,
moi j'aimais bien dire qu'il y avait beaucoup de
gras. Des bouts de cochon en purée, voilà. Donc c'était. Et donc ça, c'était une bonne occasion, ouais, de faire goûter à des gens, tout ça, de partager. C'était assez sympathique. On avait prévu de m'avoir du vin et ou du pastis avec. Ouais. Et en fait, à cause des lois
très strictes,
voilà, de l'État.
UTN.
UTN.
UTAN. UTANTE. Les règles de l'UTA.
Non, parce que tu dis UTN, je pense UT7, tiens, c'est marrant.
Et oui, c'est marrant, je pense à la même chose, en fait. Ouais, mais ouais. Non.
Et donc, ouais, à cause des lois draconiennes, non, on n'a pas voulu. Enfin, Emmanuel n'a pas voulu prendre le risque. D'ouvrir et de partager de l'alcool avec les gens qui étaient là.
Disons que non, mais ça me plaît toujours, mais y a, en même temps, par expérience, c'est toujours un moment où c'est un peu la fanfaronnade, il y a des appareils photo partout. Voilà, enfin, je savais pas dans quelle mesure ça allait devenir hors de proportion cette histoire.
Ça m'intéressait
pas trop. Quoi.
Ouais. Et.
Je me dis, autant cet après-midi, par exemple, si tu veux qu'on s'est retrouvé à mettre des bouts de mormon dans notre code.
Ouais.
Ça, je trouvais ça très drôle et j'assume complètement.
Parce qu'il faut dire qu'on a été quand même assez irrévérencieux avec le prophète des mormons.
Oui, tout à fait. Qu'on a transformé en petit chaton.
Voilà, qu'on a transformé en petit chaton qui lançait des boules de laine, enfin un truc.
Enfin, quand même, t'as dit que le temple.
Parce que le temple. C'était une soucoupe volante, en fait. Enfin, oui, une soucoupe pleine de lait.
Mais une soucoupe volante pleine de lait, mais tu as aussi dit que le temple contenait les boules de laine, enfin les yarn balls, tu as quand même écrit dans les tests que voilà, le temple secouait ses boules, qui étaient en laine certes, mais qu'il en avait aussi deux. Non, t'as pas dit qu'il avait deux boules, je sais plus comment c'était le premier test. Le temple a des boules, je crois.
Oui, c'est ça.
Voilà. Le temple a les boules, et puis après il les secoue. Voilà. Mais ça me dérangeait moins. Enfin, je me disais que c'était quelque chose qui est plus assumé, quoi. Parce que j'avais pas l'impression, en tout cas, que ça...
Ouais. Et, enfin, bon, voilà. Donc, on a fini par ces bouteilles d'alcool, on a fini par les donner...
Voilà. À une personne qui a dit qu'elle ne buvait pas d'alcool et qui ne voulait pas les avoir.
Oui, une personne dans la confession interdisait de boire de l'alcool, malheureusement.
Oui.
Donc, on a fini par donner une autre personne.
Un de nos fans qui est venu nous dire
que c'était bien, et du coup, il a eu droit à une bouteille de pastis. On lui a bien dit de mettre un peu d'eau dedans, sinon il allait mourir. Voilà.
Donc, ça, c'était
donc, pour ça, c'est, alors, la dégustation de pâté. Donc, ça, c'était pour faire du buzz sur le pâté. On avait appelé ça le pâté in the hat. Et c'était cool. C'était assez marrant. Il y a une bonne transition avec le fait que la dernière personne qui est venue
goûter, le pâté.
Goûter du pâté, c'était nul autre que Ward Cunningham.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Et qui aime bien le pâté, visiblement. Il trouve ça.
Qui trouvait ça très bon.
Ça très très bien.
Et donc, c'était très sympathique. Et d'ailleurs, du coup, hier soir, comme il commençait à se faire tard, par un concours de circonstances et tout ça, je me suis retrouvé
à dîner
en tête-à-tête avec Ward Cunningham.
Alors ça aussi, c'est complètement dingue. On a fait les iconoclastes totales hier, parce qu'on a fait notre dégustation de pâté juste avant la réception
des sponsors. Oui, la sponsor réception.
Voilà. Mais au final, en fait, il y a une dizaine de personnes pendant toute la sponsor réception qui sont restées avec nous à parler de la pluie et du
temps. À parler de pâté, et voilà, c'est ça.
Et c'était... Du coup, donc, moi, j'avais rien mangé à 21h encore.
Oui. Donc, moi, je te raconte, si tu veux, nous... Enfin, j'étais super content, évidemment. On est sorti avec Ward. Alors, il a fait un truc d'abord, c'est que quand 8h pile on sonnait, ou 8h30, je sais plus, on était encore dans l'hôtel avec. Il y avait d'ailleurs James Shore aussi qui était là. Il dit excuse me, gentlemen. Il sort son iPhone. Enfin, son iPhone venait de sonner, en fait. Et en fait, il y a une alarme qui s'est mise et il prend en photo là où il est, enfin ce qu'il fait, les gens qui sont autour de lui, tous les jours à une heure précise. Il disait qu'il a eu l'idée de quelqu'un d'autre, etc. Que c'était assez amusant après de pouvoir remonter, enfin sur des trucs à une heure précise. Donc voilà, je suis dans l'album.
Tu es dans l'album.
Je suis dans l'album photo de Ward Cunningham aux côtés de James Shore en train de faire coucou, c'est quand même.
Et c'est la première fois que je réalise ça, mais en fait Cunningham c'était aussi la famille de Happy Death, non?
Richie.
Mais c'était pas Howard Cunningham? Non, c'était pas. Non. Il n'y avait pas Howard Cunningham.
Alors je vois pas le rapport en fait avec les choses.
Non, mais monsieur, dans Happy Death, t'as Richie effectivement.
Voilà.
Cunningham. Et voilà. Et puis t'as les parents, puis t'as Mrs. Cunningham. Bref.
Bah écoute, je sais pas. Bon. Donc en tout cas, voilà, on est sorti, on a marché un petit peu, on s'est retrouvé dans un. On est allé à un bar à huîtres. Alors, je sais que ça peut paraître curieux, plein milieu des États-Unis, à 1300 mètres d'altitude, de trouver un bar à huîtres, mais...
Mais vous en avez trouvé un.
On l'a pas cherché, mais enfin, je veux dire, on nous l'a recommandé à l'hôtel. Tiens, voilà, très bon restaurant. C'est les Américains, c'est comme ça.
Écoute, en même temps, t'as pas l'air trop vert là.
Non, soir, j'ai pas mangé d'huîtres.
Ah, d'accord.
En fait, on a pratiquement rien mangé parce qu'on s'était bourré de pâté juste avant.
Oui, c'est vrai.
Donc, on a pris essentiellement une salade chacun. Mais voilà, bon, c'était vraiment l'occasion d'une discussion très intéressante. Je pense que, enfin, moi, j'avais jamais rencontré avant Bart Cunningham. Évidemment, bon, on connaît Bart Cunningham hein, quand même. C'est
Monsieur Wiki.
C'est l'inventeur du Wiki, notamment. Et un des signataires du Manifeste Agile.
Et puis c'est aussi une des personnes très influentes dans la conception d'extrême programming. Aussi.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc on a parlé de ça, l'histoire d'extrême programming, de tout le travail qu'il avait fait avec Ken Beck, quoi, qui avait mené jusqu'à la concrétisation d'XP, de la condition de. Pas mal de la condition des programmeurs, en fait. Est-ce qu'on fait des choses, est-ce qu'on travaille pour des gens, mais sur des choses qui sont pas forcément, qui sont souvent pas passionnantes, mais en fait, c'est quelque part, c'est pour rendre service. Et comment il disait que XP, des méthodes agiles, tout ça, ça avait un côté intéressant de permettre justement de travailler sur des choses qui n'étaient pas, à nos yeux, enfin aux yeux d'un programmeur, une valeur fondamentalement très importante, mais permettre d'avancer quand même, de ne pas être malheureux en le faisant. Et ça, c'était assez particulier.
Ouais.
Voilà.
Et quand tu me parles de ça, oui, j'entends quand même un côté résignation qui me déprime un peu, mais ça, c'est parce que je suis un ténu.
Ouais. Peut-être.
Je sais pas.
Ouais. Enfin bon, voilà, c'était
vraiment... Mais je comprends que c'était une rencontre importante.
Ouais, c'était chouette.
Alors, moi, j'ai envie de te parler de la mienne, de rencontre super importante.
Vas-y.
Que j'ai eue. Enfin, vraiment, mais mon grand rayon de soleil de cette conférence, en fait, c'est Willem Larsen.
Ouais.
Willem Larsen, c'est le fils de Diana Larsen, en fait, qu'on connaît beaucoup, notamment à travers son bouquin sur les rétrospectives agiles. Et alors, lui, il a lancé une association, en fait, qui s'appelle donc les chasseurs de langage, les chasseurs de langue,
Language Hunters.
Language Hunters. Et il a mis donc au point une méthode, enfin, une espèce de process qui fait qu'en fait, très rapidement, on arrive à engager une conversation avec une personne dont on ne connaît absolument pas la langue.
Ouais. Et pour apprendre, c'est une méthode, un jeu en fait, faut le dire, qui permet d'apprendre pas, enfin, je dirais pas apprendre une langue, ça serait, mais qui permet d'apprendre à parler couramment une langue en fait,
à être
fluente, comme ils disent. Mais très rapidement. Enfin, on parle de
dizaines de minutes. Ouais.
Commence à avoir un début de conversation au bout de quelques minutes. Et il dit que il faut que en deux semaines, immergé dans une communauté qui parle la langue, il peut apprendre. Enfin, c'est possible avec ce truc-là d'apprendre à avoir des conversations d'un niveau
d'enfant de 10 ans, je crois.
De 18 ans.
Ah d'accord.
C'est-à-dire avant d'avoir acquis un vocabulaire, une culture, une éducation universitaire. Donc c'est-à-dire enfin ce qui correspond souvent au niveau de la majorité des gens d'une communauté donnée. Hein. Mais ça paraît hallucinant. Quoi.
Et c'est vrai que de le voir, en fait, voir la manière dont ça se passe, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Ça donne un peps de fou. Il y a quelque chose... Autant, moi, que j'apprécie beaucoup dans le milieu informatique, on est en train d'optimiser des méthodes, on est en train de faire des choses pour vraiment rendre les choses efficaces. Mais là, il y a en fait, j'ai l'impression qu'il a travaillé à rendre efficaces les méthodes de rentrer en contact avec les gens.
Ouais.
Et il y a une humanité qui sort de tout ça, enfin, qui est extraordinaire.
Quoi. Moi j'ai eu un. Je l'ai fait aussi. Donc le jeu, voilà, il s'assied en face de toi. Et bon, bah là, évidemment, l'idée c'était que je lui apprenais du français. Il connaissait un peu de français, mais...
La partie où j'ai joué, on apprenait du polonais. Quoi.
Voilà. Et donc, moi, je lui apprends du français. Donc, il est là, en face de moi. Et puis, on commence plus ou moins avec des gestes. Et puis, la première phrase qu'il apprend à dire, c'est quoi ça ? Et puis voilà. Et donc, il y a sur la table, il a bien préparé, il a installé un stylo noir, un stylo rouge. Et il me montre du doigt, enfin, le stylo, c'est quoi ça? Je dis, un stylo noir, c'est un stylo noir. Et il répète, voilà, c'est un stylo noir, etc. Et puis après, c'est quoi ça? Un stylo rouge, voilà. Et après, ça avance. Après, c'est par geste, il me fait comprendre qu'il voudrait apprendre à dire, c'est mon stylo noir. Donc je lui dis, bah, c'est mon stylo noir. Et puis après, il pointe le stylo qui est devant moi, il dit, c'est mon stylo rouge. Et ainsi de suite. Enfin, il apprend à dire ses tons. Et ainsi de suite. Et ça monte comme ça, très très vite. Des structures, plus que du vocabulaire. C'est les structures de la langue qui sont intéressantes. Il dit notamment justement que c'est très important d'essayer de limiter le vocabulaire qui rentre. Parce que ça prend énormément de place dans la tête. Qui est
pas utilisable.
De faire rentrer des structures. Et ce moment, enfin, toute cette phase où tu es en train d'enseigner des mots à quelqu'un et de te rendre compte qu'il est en train d'utiliser tes mots et de progresser à une vitesse hallucinante dans l'apprentissage de ta langue,
c'est très gratifiant aussi.
Enfin, physiquement, ça fait un truc hallucinant. Enfin,
moi, je suis vraiment d'accord. Et alors, tu avais une suggestion que moi je trouvais vraiment folle et que j'adore. Tu me disais, mais pour apprendre le québécois, si ça se trouve, c'est vraiment une super méthode.
Moi, sur ce truc-là, moi j'ai vraiment envie, en rentrant à Paris, j'ai commencé à poser la question à William, comment ça s'est passé, parce que c'est organisé en réseau, etc. Voir qu'il n'y avait pas trop de contacts en France. Moi, c'est un truc, j'ai envie, je sais pas si ça pourra se faire, mais en rentrant à Paris, de trouver des gens qui sont intéressés, d'organiser un truc, je sais pas, une réunion hebdomadaire ou bi-honneur, quoi, ou juste faire ça, quoi. C'est pas très difficile de trouver des gens qui connaissent une autre langue que le français. Et donc, soit avec des gens, soit éventuellement dans l'école des enfants. Je sais que mes enfants à l'école, ils fréquentent beaucoup des petits enfants qui parlent chinois.
C'est une bonne idée.
Plein de langues et tu vois de faire un atelier comme ça avec des enfants, parce que lui il le fait aussi avec des enfants. Et voilà. Et donc ça serait.
Il y a vraiment
des trucs à faire. Tu parlais aussi de éventuellement utiliser ça pour aller récupérer. Parce qu'on n'a pas dit quand même. Juste pour conclure sur ce sujet-là, pourquoi il fait ça en fait ?
Oui, il fait ça parce que, enfin, l'intention au départ, sa vision, il dit donc il y a plein de langues qui sont en train de
qui sont en danger.
Il parle de dialectes, de communautés.
C'est les grand-mères en fait. Il dit qu'il n'y a plus que les grand-mères qui connaissent la langue, le dialecte des Indiens, Chinook, machin.
Voilà. Et que du coup, on ne peut pas se permettre de passer 10 ans à faire de la linguistique pour essayer de comprendre comment cette langue
fonctionne. La grand-mère, de toute façon, ne va pas t'aider à rédiger une grammaire.
D'une part, et puis elle va surtout pas attendre 10 ans.
Grammaire.
Et effectivement, d'où l'intérêt d'apprendre très rapidement à maîtriser une langue pour pouvoir la transmettre très rapidement et insuffler un peu d'oxygène dans tout ça. Et donc, lui, sa vision, il dit, c'est voilà, dans 10 ans, il faut qu'on ait réglé le problème des langues qui disparaissent.
Des langues en voie d'extinction. Et donc, c'est pour ça, enfin, je pensais, tu parlais de l'occitan.
Il se trouve que, je connais quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est une des dernières personnes à parler l'occitan.
Un occitan particulier.
Oui. Alors, ai-je appris depuis, en fait, que lui, c'est plutôt l'occitan provençal qui connaît, sachant qu'il y a aussi l'occitan auvergnat. Enfin, bon, c'est un peu à la limite entre les deux. Et lui, c'est plutôt côté provençal. Mais, moi, je me dis, c'est une des choses que j'aurais envie de remettre, enfin, par rapport, qu'on parle d'entretenir une relation ou de rajouter des choses. Je me dis, tiens, si vraiment il y a un cadeau que j'aurais envie de lui faire, je dirais s'il y a moyen de rapporter dans sa communauté une manière de que lui puisse transmettre en fait cette langue, je pense que c'est quelque chose qui lui plairait. Moi ça me plairait énormément,
vraiment fascinant.
Voilà, donc tout ça pour moi, enfin c'est ça a été le plus beau cadeau de cette conférence, quoi, de rencontrer Wilhelm Larsen. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à d'autres occasions. Mais voilà.
Autre chose dont tu voulais parler là?
Non. Enfin, je suis fasciné parce que donc pour les gens qui sont pas là, évidemment, il faut savoir donc qu'on est logé dans un hôtel, mais que la conférence a lieu dans l'hôtel en face. Donc il y a le Little America Hotel, l'hôtel de la petite Amérique, et puis il y a l'hôtel de la grosse Amérique, qui est
très. En fait, c'est un peu comme Poudlard, quoi. en fait. On découvre, là, on est dans une pièce qu'on a découverte en errant dans les couloirs.
Totalement par hasard. Et donc, il y a des photos de dirigeants. Il y a Gorbatchev, là, à côté.
Mikhail Gorbatchev, apparemment, est peut-être venu dans cet hôtel. C'est pas très clair. Mais oui, enfin, on découvre des pièces dans cet hôtel. Enfin,
cet hôtel, il est très, très classe. Moi, je l'aime beaucoup.
Très, très grand. Et le mobilier continue à être... Alors là, par exemple, là, t'en prends plein la vue avec le mobilier ici. Hein.
Ouais,
non, c'est... On est dans une lounge, en fait, une espèce de...
Et je trouve que ça a beaucoup de goût, en fait. Ce qui est assez rare pour les hôtels, les grands hôtels, en fait, de centre-ville américain. Donc non, c'est chouette. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'on passe nos journées, en fait, à traverser, à passer d'un hôtel à l'autre.
Oui.
Et donc, Salt Lake a quand même une particularité urbaine intéressante, qui est que les rues font toutes 45 mètres de large.
Ouais. C'est un chiffre, ça?
Non, enfin, 45... Oui, 45 est un chiffre, mais c'est pas...
Non, c'est 45 pas le vrai. Est un nombre, mais... Oui, d'accord. Et alors, donc, il paraît... Alors, c'est Brian Murray qui nous racontait cette anecdote.
Oui, que c'est le prophète, en fait.
Qui a reçu
la révélation
qu'il fallait que qu'on soit capable de faire demi-tour à un équipage, à un attelage, dans une rue.
Voilà, et donc les rues sont très très larges. Et évidemment, les voitures avancent à 3 à l'heure et tout le monde attend au feu pour piétons qui ne passe
parce que
15 secondes au vert que toutes les 4 minutes. Quoi.
Oui, c'est vrai aussi. Mais il y a une statistique qui vient de sortir, là, qui était dans le journal local de Salt Lake, c'est que Salt Lake City est la 6e ville la plus dangereuse, la plus mortelle des États-Unis en circulation routière.
Voilà. Donc c'est assez étonnant et alors du coup, enfin c'est frappant, tu m'as montré ça, mais donc il y a des petits drapeaux orange fluo.
Voilà, juste en face de l'hôtel. Donc il y a les deux de chaque côté du passage piéton, il y a un petit seau accroché au poteau. Et dans lequel il y a des petits drapeaux orange,
fluo,
comme utilisent les gens pour faire traverser les enfants.
Voilà. Sauf que là, il y en a plein. Et l'idée, c'est que là, donc, t'en prends un. Et c'est vraiment un drapeau pour être vu, quoi. Enfin, il y a le petit panneau qui dit attention, si vous voulez être vu pour pas vous faire écraser, mettez les chances de votre côté, prenez votre drapeau orange fluo.
Mais moi, j'ai vu quelqu'un le faire. Enfin, je veux dire, on l'a fait pour déconner, j'ai vu quelqu'un le faire alors qu'il y avait personne qui regardait. Enfin, vraiment, une femme qui traverse la rue, elle prend le drapeau, comme ça. Il n'y a même pas de voiture en plus. Et en plus, on n'imagine pas quand est-ce que la visibilité peut être réduite à Salt Lake City, parce que
il n'y a jamais un nuage.
Enfin, je veux dire, on est en montagne dans le désert. Enfin, je veux dire, c'est une combinaison qui est quand même assez
étonnant. Mais donc voilà, et c'est assez fou furieux. Ce passage piéton me fascine là, depuis 4 jours. et donc ce soir, on a fait un peu l'aventure. On a pris le tramway parce que le tramway est gratuit à Salt Lake.
En centre-ville.
En centre-ville. Et donc on est un peu sorti de l'hôtel.
Et on est passé devant Disneyland.
On est passé. Attention.
J'espère qu'il n'y a pas de mormons parmi nos auditeurs.
Non. Donc on a vu le temple des saints de la dernière heure.
Voilà.
C'est juste très bizarre, on va dire. C'est spécial. Voilà. C'est la version politiquement correcte.
C'est juste Disneyland.
Oui, c'est Disneyland. Ce truc
ne ferait pas tâche dans un parc d'attractions.
Oui, sauf que c'est pas très... Enfin, ça m'émerveille pas non plus, quoi. C'est une espèce de gros pâté. Les proportions sont assez parallépipédiques, quoi. Et donc voilà, on est un peu sortis. Et moi, j'avais toujours mon maillot rouge et blanc pour faire le français.
Énorme succès auprès des Américains.
Énorme succès, mon maillot rouge et blanc auprès des Américains, qui quand même, dans la conférence, disait ça. Je disais, c'est pour déconner, c'est sympa, mais... Mais donc, quand même, on a vu une vendeuse qui trouvait que c'était fabuleux que je m'habille comme ça. Et il y a un gars dans le métro, dans le tramway qui voulait aussi absolument savoir où est-ce que j'avais trouvé cet habit. C'était complètement fou. Voilà. Donc, c'était un peu sortons de l'hôtel et voyons ce qui se passe en dehors.
D'ailleurs. La météo.
La météo, puisque dehors. Alors, au dehors, Salt Lake, il fait toujours une chaleur d'abruti. Ça, c'est sûr.
Au dedans, ça reste. Le frigo.
Ça reste le frigo. Voilà. Et on commence à s'y habituer un peu, peut-être. Non, pas vraiment.
C'est vrai que là, on est en bras de chemise.
Finalement.
Ouais. Alors que on entend probablement la clim. Là. Je sais pas si. Je pense pas que je vais réussir à la gommer l'enregistrement. Je sais pas. On continue à être. Mais ouais, on s'y habitue.
Et alors, il y a quand même un truc assez extraordinaire, c'est que je crois que ça a été la session où le ratio ou le rapport, pardon, entre le nombre de sessions que j'ai vues et le nombre de sessions totales qu'il y avait.
La conférence, tu veux dire le...
J'ai dit quoi ?
La session.
J'ai dit la session. Non, mais je dis, il y avait beaucoup, beaucoup de sessions, et moi j'en ai vu un certain nombre, et quand je fais le rapport entre ces deux trucs-là, c'est quand même relativement proche de zéro, quoi. Et,
oui. Toi, t'en as vu quand même un certain nombre.
Parce que moi, j'en ai vu deux, quoi.
Je crois que j'en ai vu une.
Voilà.
Non. Celle avec les Lego. Et depuis. Depuis.
Ouais, moi, j'ai vu la session de René Tchott et c'est tout, quoi.
Ah oui, non, mais j'ai même pas vu celle-là. Je dormais. Enfin, alors, j'ai dit entre le décalage horaire, les montages de podcast,
les discussions avec les gens, quand même.
Ce que les les discussions avec les gens, les préparations de notre session, ah, tout ça. Enfin, c'est la panique. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Enfin, surtout sur le dernier point. Moi, depuis que, depuis que je vais à des conférences. Enfin, quand je vais à une conférence et que j'ai une session, que j'y parle. Enfin, c'est très difficile pour moi d'aller à des sessions. Enfin, surtout avant, quoi.
Mmh. Parce que et là vu qu'on était tout à la fin, forcément.
Voilà. N'a pas aidé. Bon, et accessoirement aussi, c'est vrai que là, le programme est juste trop lourd. Trop lourd. 18 sessions en même temps.
Voilà.
Et ça a un effet bizarre, quoi, qui est que il y en a tellement que tu peux plus choisir. Et que, du coup, tu vas nulle part. Alors, moi, ça me fait ça.
Ouais. Bon. Voilà. Bon. Bah, bon. Sur ce, on va aller prendre l'apéro. Hein,
Bon, de toute façon, on aura d'autres trucs à raconter sur la conférence, en fait. Ah, oui. Parce qu'il s'est passé d'autres trucs, là, dans les jours qui se sont écoulés, mais on ne peut pas tout raconter en une fois.
Non.
Donc on se les garde sous le coude. Et puis, pour une prochaine
voilà,
fois.
Voilà. Hein, super. Bon, bah, à bientôt.
Tu nous fais pas, je sais pas, un chien, un chaton, un truc, un bruit d'animal ?
Non, pas ce soir.
Non ? Non. Bon, d'accord. On mettra le lien vers la vidéo de chaton qu'on a trouvé.
Ah oui, parce qu'elle est quand même extraordinaire, cette...
Voilà.
Ah bah du coup, je vais le faire.
Ouais, c'est... Trop mignon.